Un homme plongé dans la boue n'a pas besoin qu'on vienne lui faire des discours sur la saleté de la boue. Il a plutôt besoin d'une main compatissante à laquelle il peut s'accrocher pour sortir de la boue. Nous sommes cette main compatissante.
Que le Dieu de gloire vous bénisse abondamment. Dis à ton voisin à côté que le Dieu de gloire te bénisse. Contamine-le pour qu'il puisse sourire, parce que dans la maison de l'Éternel, nous avons l'obligation d'être dans la joie, selon qu'il est dit que je suis dans la joie lorsqu'on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel. Alors, parce que vous êtes venu dans la maison de l'Éternel, vous devez être dans la joie au nom de Jésus-Christ. Dis à ton voisin, sois dans la joie au nom de Jésus. Oui, nous ne sommes pas au salon funéraire. Nous sommes dans l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Alors, quand nous sommes en présence de celui qui est le maître du ciel et de la terre, veut ou veut pas, peu importe les problèmes, je dois être dans la joie. Et il y a une raison. Parce que je sais que quand je suis dans la joie, Dieu va aussi être dans la joie. Mais lorsque Dieu est dans la joie, la Bible me dit, la joie de l'Éternel, c'est notre force. Écoutez bien ces choses, frère. Il y a des choses spirituelles qu'il faut bien saisir. Moi, je suis dans la joie pour provoquer la joie de l'Éternel. Parce que je sais que derrière la joie de l'Éternel se cache un secret. Dès que l'Éternel exprime sa joie envers moi, c'est que moi, je suis fortifié. En d'autres termes, s'il y a quelque chose qui inquiète mon cœur, qui tourmente ma vie, pour lequel je n'ai pas de réponse, je n'ai pas de solution, il suffit que Dieu soit dans la joie. Il suffit que Dieu, le Tout-Puissant, sourie en me regardant. Dès qu'il sourit en me regardant, c'est que le dossier est fermé, tout est réglé. Est-ce que quelqu'un peut dire une main d'acclamation pour notre Dieu? Alléluia! Béni soit le nom de l'Éternel. Frères, sœurs, comprends bien ces choses. Peu importe ce qui arrive, quand tu vas dans la maison de l'Éternel, efforce-toi pour être dans la joie. Parce que tu ne t'es pas déplacé pour rien. Tu as quitté ta maison, tu as marché sous ce froid accablant qui est dehors. Mais tu n'as pas marché sous ce froid pour rien. Tu as marché sous ce froid parce que tu as un rendez-vous. Tu veux rencontrer Dieu. Mais tu ne vas pas le rencontrer pour rien. Il faut le rencontrer et sortir avec quelque chose. Dis à ton voisin, tu dois sortir avec quelque chose. Il faut que tu sortes avec quelque chose. Au nom de Jésus-Christ. Je reviens sur le message que nous avons partagé dimanche passé, parce qu'il n'était pas terminé pour que nous puissions le compléter. Nous avions parlé du récit de la femme pécheresse. Et je vous ai annoncé que le message était focalisé sur deux points importants. Le premier point, c'était que la vraie émancipation de la femme a été inaugurée par Jésus-Christ.
Amen.
Et le dimanche d'avant, le samedi d'avant, le monde célébrait la journée pour reconnaître les droits de la femme. Et moi, j'ai cherché à ramener l'Église à cette vérité, que la vraie émancipation, et c'est la vérité, la vraie émancipation de la femme a commencé avec Jésus-Christ. Et nous qui sommes les chrétiens, les serviteurs de Jésus, nous avons la responsabilité de faire la propagande de ce que le maître a enseigné et de le greffer dans les têtes des gens pour qu'ils comprennent que la vraie émancipation, c'est l'œuvre de Jésus-Christ lui-même. Et le deuxième point sur lequel j'insisterai aujourd'hui, je voulais annoncer aussi dimanche passé, c'est que votre avenir ne dépend pas de votre passé, mais de votre position ou de la position que vous occupez dans le champ de vision de Dieu. Je vais revenir sur ça. Le texte que nous avons lu se trouvait dans, et se trouve encore, dans Luc chapitre 7, c'était à partir du verset 36. Nous avons vu dans ce texte que un pharisien du nom de Simon avait invité Jésus-Christ et ses disciples à dîner chez lui. Lorsque le maître est arrivé dans la maison de ce pharisien, toute la ville a été informée que Jésus est chez Simon. Et il y a une femme qui est identifiée ici comme la pécheresse. Et cette pécheresse a entendu dire que Jésus est dans la maison de Simon. La pécheresse a pris un vase de parfum et elle s'est improvisée. Elle s'est invitée elle-même jusque dans la salle des banquets et elle ne s'est pas tenue derrière Pierre. Elle ne s'est pas tenue derrière Jean ou Philippe. Elle est allée se tenir derrière Jésus. Et sans demander la permission à n'importe qui, la pécheresse a commencé à pleurer. Et de ses larmes, elle mouillait les pieds de Jésus-Christ. Et avec ses cheveux, elle les essuyait. Et elle pleurait. Ce geste a scandalisé non seulement le pharisien Simon, mais aussi tous les convives qui étaient à la table. Et Simon a murmuré dans son cœur en se disant, si cet homme de Jésus que j'ai invité manger chez moi, je me demande d'ailleurs pourquoi je préparais ce repas, si cet homme était un prophète, moi je l'ai invité m'imaginant que c'était un prophète, mais si cet homme était un prophète, il aurait pu savoir qui est cette femme qui le touche et il n'aurait pas pu permettre à cette femme de le toucher. Jésus étant Dieu, il lit ce qui se trouve sur votre cœur, même si vous avez la bouche fermée. Que ce soit au premier siècle ou aujourd'hui, tel que vous êtes là, toutes les pensées qui défilent dans votre esprit, Jésus les voit et il les connaît. Et il est capable de vous répondre sans même que vous ayez parlé. Simon n'avait pas ouvert la bouche pour parler. Simon s'est dit en lui-même, je doute fort que cet homme puisse être un prophète venu de Dieu. Et Jésus le regarde et lui dit, je vais revenir sur ça. Pourquoi Simon a été scandalisé? C'est la question que j'ai soulevée dimanche passé. Simon a été scandalisé parce que c'était la coutume à son époque. C'était la culture à son époque. Son époque n'avait aucune considération envers la femme. Et que la femme était regardée comme une chose. Au point que je vous ai dit, que dans la culture rabbinique de l'époque, un bon rabbin ne pouvait pas, ne fût-ce que parler avec une femme. Et je vous ai cité un texte dimanche passé, tiré de la tradition qui dit que parle-moi avec la femme. Si cela est vrai pour ta propre femme, encore moins avec la femme du prochain. C'est-à-dire que, d'après cette culture rabbinique, il t'est demandé, toi, de parler peu avec ta propre femme. Parce que, selon cette culture, elle n'est même pas digne que tu lui parles. Eh bien, si toi tu es appelé à parler peu avec ta propre femme, la femme du prochain ne lui parle même pas. Ne lui parle même pas. Ne la regarde même pas. Pourquoi? Le grand péché, c'est parce qu'elle est femme. Mais nous avons vu que Jésus-Christ, lui, il a marché à contre-courant de cette philosophie, de cette culture. Lorsque Simon s'étonne, Jésus prend la défense de la femme. Ça ne s'était jamais fait avant Jésus, frère. C'est la raison pour laquelle je vous ai fait comprendre que Jésus-Christ, c'est la vraie émancipation de la femme. Et je pense que toutes les femmes, je suis content parce qu'elles sont toujours nombreuses à l'église. Je ne sais pas si Dieu leur a donné cette intuition pour comprendre que Jésus-Christ est venu vous délivrer. Mais j'aurais même aimé que toutes les femmes du monde puissent venir derrière Jésus-Christ. Parce que ce que Jésus a fait pour les femmes, personne d'autre ne l'avait fait avant lui. La Bible nous dit que, à contre-courant de cette philosophie rabbinique, Jésus, non seulement il permet à cette femme de le toucher, mais c'est une femme pécheresse. Donc, dans la classe des femmes, on trouve des femmes qui sont vertueuses, mais on trouve aussi des femmes qui sont pécheresses. C'est que les pécheresses là sont regardées comme des démons au carême. Bien. Autant permettre à une femme vertueuse de me toucher, mais aller jusqu'à permettre à une pécheresse de te toucher. Tous les regards étaient sur Jésus pour voir comment il va réagir. Et écoutez, frère. Amen, Église. Amen. Cela était une révolution à son époque. Et il était en train de changer une culture qui était déjà établie. Amen. Je vous ai parlé de sa rencontre avec la femme samaritaine. Et si vous lisez bien le texte qui se trouve dans Jean chapitre 4, Elle est la première. Hey, écoutez-moi, Église. Elle est la première à qui Jésus se présente en tant que Messie. La révélation de sa messianité, le maître ne l'avait pas donnée à une autre femme, à un autre homme. Il va la donner pour la première fois à cette femme. Et quel type de femme encore? Elle est d'abord une femme païenne, une samaritaine. C'est bien d'avoir une femme juive, vertueuse. Mais ici, dans ce cas, nous avons une femme qui est païenne. Ce qui est déjà un obstacle. Parce que les païens, si j'ai le temps de dire un mot, ils étaient placés au même rang que les femmes, au même rang que les esclaves. Et un homme juif sérieux, quand il faisait sa prière matinale chaque matin, il se réveille, il dit, Seigneur, je te remercie de ce que tu ne m'as pas créé un païen. Tu n'as pas fait de moi un païen, tu n'as pas fait de moi un esclave, tu n'as pas fait de moi une femme. Merci Seigneur. Et chaque matin, quand il se réveille, il dit cette prière à Dieu. Vous pouvez comprendre, chaque matin, il place ces deux, ces trois dans le même paquet. Et ici, nous avons affaire à une femme qui est païenne, donc samaritaine. Ça, c'est au carré. Et qui est de mauvaise vue. Mais ça, c'est au cube. Donc, vous pouvez comprendre. Et Jésus va se retrouver seul à seul avec cette femme. Et il va lui révéler qu'il est Messie. La femme dit que, mais on nous a dit que le Messie, il va dire que je le suis. Femme, nous sommes à Dieu, je te confie, c'est moi le Messie. Et à partir de ce moment, cette femme est devenue la première missionnaire du message de Jésus-Christ sur le Seigneur. Ce n'est pas Paul, Paul est venu en retard. C'est cette femme qui est allée dire aux Samaritains qu'il y a quelqu'un là qui m'a raconté toute ma vie. Et tout le village a accouru derrière Jésus. Pourquoi le maître a fait ça? Dans chaque geste, frère, il y a un enseignement. Lorsque vous allez plus loin dans les exemples que j'ai donnés dimanche passé, même la femme, et puis je me demande, le maître n'a choisi que les cas qui sont extrêmes. On parle de la femme qui avait la perte de sang. Vous savez que d'après la loi, quand la femme a la perte de sang, elle est impure. Elle ne peut même pas toucher un bois. Parce qu'elle s'est dit, si je touche le bois, quelqu'un d'autre, même mon enfant qui viendra toucher ce bois, il sera impur. Mais Jésus va permettre qu'une telle femme vienne le toucher. Et il ne l'a pas chassé. Il laisse qu'il vienne le toucher. Quoi? Quel enseignement il nous donne? C'est toute une révolution qui est en train d'être mise en branle ici. Je vous ai donné l'exemple de la femme adultère. Et comment le maître a pris sa défense et il a confondu la classe des pharisiens. Bref, à travers tous les gestes de Jésus-Christ, que ce soit lorsqu'il permet, et il est le premier, en tout il est le premier, lorsqu'il permet aux femmes de faire partir de son cortège missionnaire. Donc quand il se promène pour enseigner la parole de Dieu passant de ville en ville, dans l'équipe des individus qui l'accompagnent, il y a des femmes, personne, aucun rabbin ne l'avait fait avant. Personne, et même personne ne peut s'imaginer que cela puisse être faisable. Donc, je voulais vous faire comprendre que Jésus-Christ est venu changer notre perception de la femme. Parce que il nous a renvoyé à la perception du commencement. Il y a un frère qui a soulevé la question dimanche passé, avec raison, que la Bible dit à la femme que, ben, tu es maudit, ton mari dominera sur toi et tes désirs se tourneront vers lui. C'est vrai, c'est biblique, c'est vraiment vrai. Mais il faut distinguer les temps. Il y a un premier temps où c'était le temps où les gens vivaient en communion directe avec Dieu avant la chute. Là, la notion qui est retenue, c'est que la femme, c'est l'aide semblable, un partenariat, une complicité extraordinaire avec l'homme. Regardez, la femme mange le fruit et elle prend le morceau, elle donne directement à l'homme. Et l'homme n'a pas refusé parce que la complicité était. Mais l'homme savait bien que ce fruit provient de l'arbre interdit. Il aurait pu dire non, femme, Dieu a dit de ne pas toucher. Mais la complicité était telle que l'homme n'avait même pas le pouvoir de dire non. Ils étaient intimement liés et il a accepté, il a pris. Regardez une chose, après avoir chuté, l'homme a pris sa femme, ils se sont retirés. Il a oublié que c'est Dieu qui lui a amené cette femme. Donc, il prend la femme par la main, ils vont se cacher en brousse. Ils cherchent des feuilles pour se confectionner des vêtements. Vous ne trouverez pas que l'homme avait mis sa femme à côté. Mais lorsque Dieu vient maudire maintenant le monde, il maudit l'homme, il maudit la femme. C'est à partir de cette malédiction qu'effectivement, l'homme a commencé à dominer sur la femme. Et c'est là, allant crescendo, jusqu'au moment où les cultures ont exagéré et ils ont vraiment, vraiment, vraiment fait de la femme une véritable esclave, parce que c'est elle qui a été l'auteur du péché dans le jardin d'Éden. C'est elle qui est allée manger la première le fruit et a corrompu la race. Mais lorsque le maître arrive, lui, en tant que le deuxième Adam, parce que le premier Adam a amené le monde à la mort, il a échoué sa mission, lui se présente maintenant comme un deuxième Adam pour restaurer les choses dans leur vision du commencement. Et lorsqu'il restaure les choses, il va d'abord dire aux Juifs qu'au commencement, les choses n'étaient pas ainsi. Et par des gestes pratiques, vous voyez comment il est en train de restaurer la femme dans sa valeur primitive d'être une aide semblable. J'ouvre encore une parenthèse. Oui, Dieu a donné la femme à l'homme comme étant une aide. Et lorsque vous lisez le Nouveau Testament, l'apôtre Paul certifie à haute voix que l'homme est le chef de la femme. Je vais vous faire comprendre une chose, c'est la vérité. Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu ne peut pas permettre que dans le foyer, les choses marchent dans le désordre. Et pour qu'il n'y ait pas de désordre, Dieu a établi l'homme comme étant le chef de la famille, c'est-à-dire le PDG de la famille. Et il a établi la femme comme étant la PDG, la PDG adjointe, hein? Pas comme une ouvrière. Écoutez-moi bien, la femme n'est pas placée comme une ouvrière, mais comme une PDG adjointe, c'est-à-dire l'aide de l'homme. Quand l'homme n'est pas là, donc tout le pouvoir de la maison revient à la PDG adjointe. Il y a dans certaines cultures, c'est la Bible, frères et sœurs. Je vous dis des choses qui sont bibliques, que nous puissions bien les comprendre. Il y a dans certaines cultures, c'est Joseph qui me l'avait dit un jour et il était complètement bouleversé, qu'il est entré dans une famille où l'homme parlait à son petit garçon de 5 ans. Tu dis dans cette maison, après moi c'est toi. Tous les autres là, ils ne valent pas. Si je ne suis pas là, c'est toi. Mais il parle à ce garçon, sa maman est là. Donc sa maman n'est pas visible, elle n'est pas comptée. Comme pendant la loi, vous voyez, pendant la loi, pendant la période de la malédiction, là, lorsqu'on faisait le dénombrement de la population, on ne comptait pas la femme. Ça se comprend. Ça, c'est la malédiction. Mais lorsque la malédiction a été levée, vous lisez dans Luc chapitre 8 que Jésus-Christ se promenait avec des multitudes, et on va vous citer Jeanne, on va vous citer Marie de Magdala, on va vous citer Suzanne, c'est qu'on doit revenir. En tant qu'Église, pourquoi je reviens sur ce message? Un, c'est pour demander à tous les hommes chrétiens d'avoir une perception positive, non seulement de leurs femmes, mais de toutes les femmes, à l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. De comprendre que la femme, c'est une créature à part entière, semblable à toi comme toi, homme. Et lorsque tu trouves un homme en train de dominer une femme parce qu'elle est femme, intervient pour rappeler cet homme à l'ordre. La Bible dit qu'elle est un sexe faible, mais la Bible ne dit pas qu'elle est un sexe inférieur. Elle est faible, même parmi les hommes. Même parmi les hommes, tous les hommes n'ont pas la même force. Donc il y en a qui sont forts, il y en a qui sont faibles. Si vous blaguez, ce n'est pas parce que vous êtes... Ce n'est pas parce que vous êtes homme que vous allez vous affronter à tous les autres hommes. Il y a quelqu'un qui est plus fort que vous. Si vous insistez, peut-être quelques temps peuvent se retrouver sur le plancher. Alors, c'est la même chose. Si il y a une femme qui est faible, elle est faible, mais elle n'est pas inférieure. Donc, restaurons les choses comme le maître l'enseigne. Ce n'est pas ma parole, c'est la Bible que je suis en train de vous expliquer. Et dans le foyer maintenant, ouais, ça, j'ai demandé d'abord à l'homme de changer sa perception envers la femme et à la femme de changer sa perception envers elle-même. Parce qu'il y a des femmes qui elles-mêmes se considèrent comme étant esclaves. Non, 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 moi je ne suis qu'une femme. Non, tu es une femme, c'est-à-dire incapable de réfléchir, incapable de faire quelque chose. Ça, c'est toi, la femme, ce n'est pas l'homme. Et il y a beaucoup de femmes qui sont restées dans cette dynamique-là. Non, 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 moi je suis une femme. Moi je ne peux pas toucher à ça. Moi, j'ai beaucoup aimé le pasteur Neto quand il disait un jour qu'elles sont en train de crier, mais je laisse faire ça. Alors, on avance. Est-ce que quelqu'un peut donner une main d'acclamation? Donc, il faut que la femme change d'abord la vision qu'elle a d'elle-même en se considérant être vraiment une créature de Dieu, créée selon la ressemblance et à l'image de Dieu, se mettre dans cette position-là. Et ensemble, nous allons travailler pour développer l'humanité, pour développer le monde autour de nous et accomplir la vision que Dieu nous a ainsi donnée. La Bible dit ceci dans Galates chapitre 3, verset 26. L'apôtre met l'accent ici sur la loi et la foi, c'est-à-dire pour bien comprendre ce texte, commencer par le premier chapitre, pour comprendre quelle différence il établit entre la loi et la foi. Et rendu au verset 26, il dit que vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu, vous avez porté Christ. Alors, à cause du fait que vous avez porté Christ et que vous êtes tous fils de Dieu en Jésus-Christ, il y a une implication qui suit au verset 28. C'est qu'à partir de ce moment, il n'y a plus, il faut souligner plus. Quand en français on dit qu'il n'y a plus, c'est que cette chose-là a d'abord existé, ou cette histoire-là était permise avant. Mais maintenant, on a aboli cela. C'est qu'il n'y a plus de différence entre juifs et grecs, c'est-à-dire entre juifs et païens. Le mot grec ici, c'est l'image de tous les païens. Et vous savez que dans le temps ancien, il n'était pas permis à un juif d'avoir des amitiés avec un païen. Le mot païen, d'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, vous l'utilisez comme injure. Quand on dit à quelqu'un païen, c'est-à-dire c'est comme si on l'injuriait. Il n'était même pas autorisé à un juif de manger avec un païen. Rappelez-vous l'histoire de Paul, Pierre et certains disciples à Antioche, je suis sûr. Lorsqu'ils sont arrivés à Antioche, Pierre mangeait avec les païens. Parce qu'il croyait qu'il était devenu libre à travers le message de l'évangile. Et lorsqu'il a vu quelques frères qui venaient de Jérusalem, Pierre se lève, il se cache. Et Barnabas aussi se cache. Et les autres juifs imitent Pierre. Et Paul se lève et dit que non, c'est toi qui prétends être juif, tu te comportes comme ça. Et les païens, comment ils vont faire? Pourquoi il l'avait fait? C'est parce qu'il était interdit de manger avec le païen. Le païen était regardé comme un sous-homme dans la tradition juive. Parce que les juifs ont la loi, ils ont Dieu. Et le païen n'a pas de loi. Les incirconcis, même jusqu'à aujourd'hui, quand on dit d'un païen incirconcis, c'est dans le sens péjoratif. Eh bien, Galate dit, à partir du moment où vous êtes devenu fils de Dieu, en croyant en Jésus, fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ, il n'y a plus des différences entre juifs et grecs. Il n'y a plus de différence entre esclaves et hommes libres. Rappelez-vous la prière de ce bon juif. Merci Dieu, tu n'as pas fait de moi un païen. Tu n'as pas fait de moi un esclave. Et tu n'as pas fait de moi une femme. Le trio apparaît ici. C'est-à-dire le trio esclave, païen, femme. Écoutez frère, quand vous continuez à traiter une femme comme un esclave, acceptez aussi que vous soyez traité comme un païen. Acceptez que vous soyez aussi traité comme un esclave. Mais si vous dénoncez, l'Église a dénoncé l'esclavage. Pendant tous les temps de l'esclavage, l'Église a fait un grand travail. L'Église doit aussi faire le même travail aujourd'hui pour restaurer cette dignité humaine, parce que Dieu n'est pas un Dieu qui fait la discrimination entre les gens, mais il est le Dieu qui abolit et qui a même aboli la discrimination. Il n'y a pas d'église pour les hommes et d'église pour la femme. Il n'y aura pas d'enlèvement pour les hommes et d'enlèvement pour la femme. Il n'y a pas de péché pour les hommes et de péché pour la femme. La loi est bien claire là. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Si un homme pêche, il va mourir. Si une femme pêche, elle va mourir. Et lorsque le Seigneur va venir, il n'y aura pas de résurrection pour les femmes et des résurrections pour les hommes. Bref, resterons les choses dans leur vrai contexte, respectons la loi des dieux, respectons la créature des dieux et comprenons que la femme, c'est un être semblable à nous et un être qui est appelé à la même vocation céleste avec nous lorsque le maître apparaîtra sur la nuée. Et à cause de cela, nous allons apporter la même révélation, la même révolution, restauration que notre maître. Nous, nous sommes les disciples de Jésus-Christ et nous sommes appelés à marcher dans les pas de Jésus-Christ. Je crois qu'avec cette mise en lumière, l'Église de Dieu va se comporter en tant qu'Église pour pouvoir restaurer ce que Dieu veut que nous puissions restaurer dans la communauté et dans notre relation avec la femme. La deuxième vérité que nous apprenons dans ce texte, c'est que votre avenir ne dépend pas de votre passé, mais plutôt de la position que vous occupez dans le champ de vision de Dieu. La Bible dit que pendant que Simon murmurait contre le geste de la femme, Jésus fait plutôt l'éloge de la femme. Il lui dit, regarde cette femme Simon, je suis entré dans ta maison, tu ne m'as pas donné de l'eau pour laver les pieds. Mais elle a mouillé mes pieds avec ses larmes et elle les a essuyés avec ses cheveux. Parce que tu n'as même pas prévu un essieu, mais pour moi. De deux, quand je suis entré dans ta maison, tu ne m'as pas embrassé comme lorsqu'on embrasse quelqu'un qui arrive, qu'on aime. Tu m'as laissé entrer comme un inconnu. Mais voilà que depuis que cette femme est arrivée, elle ne cesse d'embrasser mes pieds. Elle ne cesse de m'embrasser. Une manifestation de l'amour. Trois, quand je suis entré dans ta maison, Simon, tu ne m'as même pas versé de l'huile sur la tête. Mais regarde que cette femme, depuis qu'elle est arrivée, elle ne cesse de me verser un bon parfum sur mes pieds. À cause de cela, Simon, je te dis que ses nombreux péchés, tu dis vrai que c'est une femme pécheresse. Oui, c'est la vérité. Mais à partir de maintenant, je t'informe que ses nombreux péchés lui sont pardonnés. Et à partir de cet instant-là, le nom de la femme a changé. Elle n'était plus appelée la pécheresse, mais elle est devenue une sainte. Frère, sœur, je vais te dire aujourd'hui que ton avenir ne dépend pas de ce que tu es aujourd'hui, mais ton avenir dépend de ta position dans le champ de vision de Dieu. Cette femme a eu une intuition formidable. Elle a compris que Jésus-Christ est là. Il faut que je me fasse voir à Jésus-Christ. Lorsqu'elle est allée se faire voir à Jésus-Christ, elle est entrée dans le champ de vision de Dieu. Et si Dieu vous voit, frère, votre vie change, votre nom change, votre statut change. Elle était appelée pécheresse. Quand elle est entrée dans le champ de vision de Dieu, elle est devenue une sainte femme et nous parlons d'elle aujourd'hui. Je veux vous dire aujourd'hui, mon frère, ma soeur, que si vous acceptez aussi de vous placer sous le champ de vision de notre Dieu, Dieu peut changer votre statut et il va même changer votre statut. Si aujourd'hui on vous appelle pécheresse, aujourd'hui on dit de vous que vous êtes quelqu'un de mauvaise vie, ce n'est pas la fin du monde, frère. Vous pouvez avoir la mauvaise vie, ce n'est pas la fin du monde. Parce que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot sur votre vie. Il est capable de vous changer et de changer votre nom. Peut-être que le monde vous a appelé malédiction. Dieu est capable de changer votre nom et désormais vous serez appelé bénédiction. Pourquoi le secret, c'est qu'il faut se placer dans le champ de vision de notre Dieu. Dans le champ de vision de notre Dieu. La Bible nous raconte l'histoire de Pierre dans la cour de Caïphe. Pierre a renié Jésus-Christ trois fois devant une petite fille, une servante, que Pierre aurait pu gronder d'ailleurs en lui disant que femme, tu ne sais pas que je n'ai pas le droit de parler avec une femme en public. Mais la femme lui dit, toi, tu étais avec Jésus-Christ. Pierre a commencé à paniquer, à trembler. Dit, non, non, femme, c'est faux. Non, 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 non. Homme, je trouve que c'est ça. Non, non, femme, tu te trompes. Non, 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 non. Homme, c'est ça. Femme, je te le jure, au nom de Dieu, ce n'était pas moi. Il a même juré pour mentir. Et à partir de ce moment-là, Pierre s'était placé dans une position très fâcheuse au regard de l'évangile du royaume. Il a renié le maître. Mais Dieu, par amour, Il a envoyé les caméras du ciel zoomer Pierre. Parce que les caméras du ciel ont la puissance même de déplacer. On a zoomé Pierre, on a zoomé Pierre, on a zoomé Pierre. Et on l'a placé dans un même angle que Jésus-Christ. La Bible dit qu'il a seulement tourné. Lorsque le regard du maître a frappé Pierre, tout a changé dans sa vie. C'est-à-dire quand Pierre s'est placé sur le champ, dans le champ de vision de Jésus, dès que Jésus l'a regardé, Pierre a compris tout. Pierre a été restauré, ne fût-ce que par le simple regard. Frère, sœur, même si tu es aussi lâche aujourd'hui, même si tu es poltron, même si tu es incapable de faire quelque chose de bien, même si tu es incapable de témoigner ton Dieu en public, il suffit de te placer dans le champ des visions de Dieu. Dieu est capable de faire de toi un homme courageux. Dieu est capable de changer totalement ta vie. Imaginez-vous que le jour où, dans Actes des Apôtres, même le jour de Pentecôte, ce Pierre qui avait fui, c'est ce Pierre qui a tenu le discours devant la multitude. Et lorsqu'ils ont été fouettés devant le Sanhédrin, ce Pierre qui avait fui devant la petite fille, il a résisté au gouvernement israélien. Il leur a dit, jugez vous-même. S'il faut vous obéir, vous obéir à Dieu. Ce qu'il aurait pu dire à la petite fille, que femme, oui, j'étais avec elle, avec lui, fais ce que tu veux. Mais Dieu, il est capable de changer. Je vais vous rappeler encore l'histoire de Moïse. Un homme violent, un criminel. Moïse était criminel. Il a tué criminel. Et lorsqu'il a senti que Pharaon le cherchait pour l'arrêter, il s'est sauvé, un fugitif. Et il s'est réfugié à Madian où il a passé 40 ans. Mais un jour, par bonheur, la Bible dit qu'il paissait les troupeaux de son beau-père. Et il est allé jusqu'à Horeb. La Bible explique la montagne de Dieu. Et quand il est arrivé à la montagne de Dieu, c'est qu'il est entré dans le champ des visions de Dieu. Quand Dieu l'a vu, quelque chose s'est passé. Le criminel est devenu l'homme le plus patient du monde. Au point que dans nos prières, nous disons parfois, Seigneur, accorde-moi la patience de Moïse. Dieu peut te transformer aujourd'hui aussi, mon frère. Même si tu es violent, même si tu es colérique, même si tu es intolérant, il suffit de te placer dans le champ des visions de Dieu. Dieu peut faire quelque chose et ta vie ne sera plus la même. Souvenez-vous de l'histoire de Ishmaël. Ishmaël a été chassé avec Agar par Abraham. Et ils ont erré dans tous les déserts de Beersheba. La Bible dit que fatigué, il n'avait plus d'eau. L'enfant était déshydraté, épuisé. L'enfant était agonisant. Agar va décider de l'abandonner sous un petit arbre pour le laisser mourir en dignité. Et elle s'est retirée pour se cacher. Malheureusement pour Agar, le petit arbuisseau où il a laissé l'enfant, cet arbuisseau-là était sous le champ des visions de Dieu. Et lorsqu'il a laissé l'enfant là-bas, Dieu a vu l'enfant. Lisez bien le texte, j'aime bien ce texte. Dieu dit à Agar, l'ange de l'Éternel dit à Agar, Dieu a entendu les cris de l'enfant. Mais la Bible dit que c'est Agar qui criait, qui pleurait. Dieu n'a pas entendu le bruit d'Agar. Parce que Agar était en dehors du champ des visions, loin. Mais l'enfant qui était dans le champ des visions, notre Dieu qui a la capacité de lire, il a lu les cris que l'enfant poussait en silence en dessous de l'arbre. Et à partir de ce moment, quelque chose s'est passé. La Bible dit qu'il a ouvert les yeux à Agar. Agar a vu le puits. Mais le puits était à côté là-bas. Agar ne faisait que tourner. Tant que l'Esprit de l'Éternel ne s'était pas manifesté, elle ne pouvait rien voir. Je veux dire, même aux jeunes, aux enfants, peu importe la façon dont vous êtes venus au monde, peut-être que votre père, c'est un père inconnu. Frère, sœur, qu'est-ce que vous aviez fait pour avoir un père inconnu? Qu'est-ce que vous aviez fait pour avoir une mère inconnue? C'est vous qui avez dit à votre père de fuir la maison, à votre mère de fuir la maison. Mais vous avez dans le ciel un Dieu qui lui est capable de continuer à vous aimer, même si vos parents biologiques et naturels vont vous abandonner. Je vais terminer avec l'histoire de la petite Rachel Manza que vous connaissez vous tous ici, pour ceux qui sont congolais. C'est une petite fille qui n'a même pas étudié. Une fille qui dormait dehors. Donc, une enfant de la rue, connue de tous, même elle-même le certifie. Et cet enfant de rue a été envoyé dans la maison d'une de ses parentées. Et la nuit, elle faisait des somnambulismes. Parfois, il peut arriver à quelqu'un de se parler seul. Et la patronne de la maison va la prendre pour dire, non, toi, tu t'es parlé la nuit, tu es sorcière. on a amené chez les prophètes. Oh, les prophètes, ils sont nombreux, les prophètes. Et les prophètes ont prophétisé sur elle qu'elle est sorcière. Tellement qu'on l'a pressée pour se sauver, elle a fini par dire oui, je suis sorcière pour avoir la liberté. À partir de ce moment, tout ce qui arrivait dans la famille, c'est elle la sorcière. Tout ce qui arrivait, jusqu'au moment où elle s'est sauvée, elle a commencé à vivre dans la rue. Mais qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va faire que on puisse utiliser cette fille dans un film. Et de là où elle était dans la rue, elle est devenue aujourd'hui une vedette internationale. Elle est passée à des chaînes de télévision où nous ne pouvons pas passer. Même en parlant mal français, on l'a interviewée. Elle est allée, je ne sais pas si elle est allée à Hollywood ou elle est allée où. Elle est allée partout là-bas. On a déjà publié ton nom dans un journal. Toi, il y a déjà une chaîne de télévision qui est venue te chercher. On l'appelle Rachel Mwanza. Et même sans avoir étudié, elle a publié un livre. Tout est possible, frère.
Amen.
Mais maintenant, je demande la question. Le prophète, est-ce que le prophète peut encore prophétiser d'elle qu'elle est sorcière? La prophétie va changer. La Bible dit ceci, que l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme à la mort et de le faire vivre au milieu de la famine. Deux choses ici pour se placer dans le champ de vision de Dieu. Un, craindre Dieu. Et deux, espérer en Dieu. Si vous craignez Dieu, vous espérez en lui, vous vous êtes placé dans son champ de vision. Et à partir de ce moment, votre vie ne sera plus la même. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout?